Entrons dans nos Bibles une fois de nouveau et regardons dans l'épître de Paul à Tite, le chapitre 3. Et aujourd'hui, nous allons au titre de ce message, justifié par sa grâce. Nous sommes en train d'étudier comment que le Seigneur sauve des pécheurs. Et nous avons déjà vu dans le verset 5, il nous a sauvés. Donc, s'il y a ceux qui prêchent un salut mixte qui dépend en partie de Dieu et de l'autre part de l'homme, ce n'est pas le salut de la Bible. Ici, c'est très clair. Il nous a sauvés. Et puis Paul ajoute, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Dans la Bible, ça parle des œuvres de justice qui ne peuvent jamais être la base du salut. Et puis, de l'autre côté, dans Tite chapitre 2, nous avons vu que l'œuvre que Dieu fait dans le cœur des pécheurs qu'il a choisi, c'est, ça produit, c'est écrit, de bonnes œuvres. Il y a une différence. Œuvres de justice que nous aurions faites et de bonnes œuvres. Bonnes œuvres représentent le fruit de l'œuvre de Christ à l'égard du pécheur et par son esprit maintenant, qui cause ce pécheur-là de donner toute la gloire et l'honneur à Jésus-Christ en toutes choses. Ça, c'est une bonne œuvre. Et c'est une bonne œuvre parce que c'est Dieu lui-même qui la produit. Mais lorsque vous voyez œuvre de justice, nous n'en avons pas. Mais selon sa miséricorde et par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, voilà comment le pécheur est né de nouveau par l'Esprit et que le pécheur maintenant voit comment Dieu l'a sauvé bien avant qu'il ne le connaisse. Notre salut n'a pas commencé avec cette expérience de la régénération, mais c'est à la régénération que le pécheur entre maintenant dans cette connaissance de ce que Dieu avait déjà ordonné depuis l'éternité et qui maintenant envoie son Fils, le Saint Jésus-Christ, donner sa vie à l'égard de ce pécheur-là. Et c'est par l'Esprit, ici appelé le baptême de la régénération, l'immersion, c'est ça que le sens du mot baptême, l'immersion de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc même ça ne vient pas de nous, mais c'est grâce à l'œuvre de l'Esprit en nous que nous venons à Christ et que nous embrassons Christ, et que nous nous soumettons à la justice de Dieu en Jésus-Christ, et nous renonçons à toute œuvre de justice de notre part, parce que nous n'avons pas. Et c'est là que Paul dit dans le verset 6, qu'il a répandu sur nous avec abondance. Qu'est-ce qu'il a répandu sur nous avec abondance? Sa miséricorde. Pour remonter jusqu'au verset 5. Bien vrai, il donne son esprit à chacun de ceux qu'il a élus et pour qui Christ est mort, mais c'est cette miséricorde qui est répandue sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout provient du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre. Voilà le centre même de l'Évangile et de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. À quel moment est-ce que nous avons été en réalité sauvés? Nous pouvons dire que c'est lorsque Christ est venu et il a achevé, il a accompli tout ce que la loi exigeait du pécheur. Il a pris la charge du péché sur lui-même. Et c'est ainsi que lorsqu'il a fini de payer la dette, il ne restait plus rien que pour Dieu d'imputer, attribuer au compte de tous ceux pour qui il est mort la justice de Dieu, à tel point qu'il ne reste aucune condamnation maintenant à l'égard de ceux pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. Voilà comment la miséricorde de Dieu a été répandue une fois pour toutes sur chaque pécheur pour qui le Saint Jésus a payé la dette. C'est pourquoi c'est impossible de considérer que Christ ait donné sa vie pour tous les êtres humains du monde. Pourquoi? Parce que si effectivement il a donné sa vie pour tous les êtres humains, cela veut dire qu'il a répandu déjà sa miséricorde sur tous les êtres humains, donc plus de condamnation. Et nous savons qu'il y en a qui restent encore sous la colère de Dieu et qui seront sous la colère de Dieu pour l'éternité. Dieu ne les a jamais désignés pour le salut. Mais tous ceux qu'il a désignés pour le salut et qu'il a donné à son Fils, même avant les temps éternels, et pour qui Christ est venu dans ce monde et payé la dette, tout accompli, c'est ainsi qu'ils sont maintenant sauvés. Et c'est l'Esprit maintenant que Dieu le Père donne à ceux-là en son temps, à travers la prédication de l'Évangile, pour qu'ils saisissent cette grâce et qu'ils aient cette foi unique en Jésus-Christ. Ça ne vient pas de l'homme, mais c'est le don de Dieu. Voilà le sens de ce passage. Et puis, la conclusion alors, dans le verset 7, c'est clair, afin que, quand vous voyez afin que, voici la conclusion de tout ce qui a été dit du verset 5 jusqu'au verset 7. Justifié par sa grâce. Encore, remontons dans le verset 5. Sans les œuvres de l'homme contribuant. Tu sais que dans la prédication aujourd'hui populaire, il y a des prédicateurs qui prêchent que le salut est par la grâce de Dieu, mais ils ajoutent « mais », c'est-à-dire ils mettent la condition maintenant sur l'homme. Cette grâce, ils prêchent, c'est à votre disposition. Mais à vous de le saisir, ce n'est pas ce que ce verset dit. C'est écrit que qui nous a sauvés non à cause des œuvres de justice, afin que, voilà la conclusion, allant tout droit, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc c'est une vie éternelle que Dieu a ordonnée pour les pécheurs de son choix avant les temps éternels. Et c'est Christ qui est venu satisfaire à la loi et la justice de son Père à l'égard de son peuple. C'est pourquoi il est appelé Jésus dans Matthieu chapitre 1, le verset 21. Tu l'appelleras Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Ça ne dit pas qu'il tentera de sauver si l'homme veut bien. Non, il sauvera son peuple. Qui est ce peuple? C'est le même qu'il a choisi avant les temps éternels. Dans le premier chapitre, le titre chapitre 1, Paul écrit cette épître disant Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, notez, pour la foi des élus de Dieu. C'est pourquoi les prédicateurs que Dieu établit, ils n'ont qu'un seul message, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié pour la foi des élus. Ici aussi, l'œuvre du Saint-Esprit qu'il œuvre dans les cœurs des pécheurs élus, c'est pour la foi des élus, c'est pour qu'ils arrivent à cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils deviennent, alors, notez, en espérance. Ce mot est clé. Ils ont été déjà élus à cette fin d'être héritiers de la vie éternelle, mais nous devenons en espérance, c'est-à-dire c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons cette espérance qu'en effet nous sommes de ce nombre d'héritiers, notez bien le mot, héritier, non pas méritier, héritier. Cela veut dire le choix a été fait pour nous et c'est ainsi que Dieu œuvre ce salut. Mais nous sommes justifiés par sa grâce. Nous verrons dans les versets précédents de passer en revue déjà les sept caractéristiques de ceux qui sont perdus. Nous avons vu ça dans le verset 3. Autrefois, nous étions, quoi, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et septièmement, nous haïssant les uns les autres. Maintenant, dans ces versets 5 à 7 ici, dans titre 3, nous venons de passer en revue les sept caractères qui appartiennent au salut. Vous voyez ce contraste. Ça fait un très bon message pour pouvoir prêcher tout cela dans un seul message. Mais ce sont les sept traits caractéristiques des enfants de Dieu, en contraste avec les sept traits par lesquels le monde se distingue, ceux qui sont encore dans le monde, ceux que nous étions, parce que ça commence dans le verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence, si ce n'est la grâce de Dieu qui nous a distingués par l'élection et l'œuvre de Christ payant la dette pour qu'il n'y ait plus de condamnation et ensuite l'œuvre de l'Esprit en révélant Christ dans le cœur. Voilà l'harmonie du Dieu trinitaire, de la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le salut est de Dieu dans ce sens. Mais ici, par exemple, les sept caractères du salut sont les suivants. Premièrement, les œuvres de justice en sont exclues. Ce n'est point par les œuvres de justice, non à cause des œuvres de justice. Donc ceux qui imaginent que même en quelques contribution, ils contribuent à leur salut, ceux-là sont encore du monde, ils sont encore perdus, ils sont encore insensés, ils sont encore désobéissants, ils sont encore égarés. Bien sûr, il se peut qu'ils soient élus, mais que jusque-là, l'Esprit de Dieu ne leur a pas encore révélé le Christ, parce que nous étions tous de ce nombre, nés dans ce monde, dans cet aveuglement. Mais puisque le Père nous a déjà choisis et Christ a déjà payé la dette, il a fallu donc que l'Esprit soit répandu en nous, mais encore par le baptême de la régénération. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui nous immerge dans cette grâce et nous renouvelle. Pourquoi le renouvellement du Saint-Esprit? C'est nécessaire tous les jours parce que nous sommes encore dans un cœur pécheur qui a tendance de s'égarer et aller dans un autre sens. Mais c'est toujours l'Esprit qui nous retient et nous garde en regardant Jésus-Christ. Mais ce qui est sûr, c'est que, premièrement, les œuvres de justice en sont exclues. La seule œuvre de justice dans le salut, c'est l'œuvre de Christ qu'il a accomplie à la croix. Et voilà ce qui nous distingue des autres. Paul, en écrivant aux Romains, dans Romains chapitre 10, a dit cela, même concernant ses frères dans la chair, c'est-à-dire d'autres juifs, ils avaient la loi, ils avaient cette même parole que nous lisons, mais la pierre de Paul dans Romains 10, verset 1, « Faire le vœu de mon cœur et ma pierre à Dieu pour eux. » Notez, c'est qu'ils soient sauvés. Ça, c'est étonnant peut-être pour d'autres de lire cela parce qu'ils imaginent, non, mais si des gens sont zélés, ils font leur prière, ils lisent la Bible, ils donnent leur dîme, ils vont à l'église, ils s'efforcent de vivre leur vie d'une manière juste devant Dieu, alors c'est qu'ils sont sauvés, non. Paul dit, ma prière et le vœu de mon cœur à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Effectivement, qu'ils soient parmi ce nombre de ceux que Dieu a sauvés, mais qui jusque-là vivent leur vie dans l'aveuglement et l'ignorance. Il dit dans le verset 2, je rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, sans la véritable connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et je dois vous dire que 90% de ceux qui se donnent ce titre aujourd'hui d'être chrétiens ou croyants sont dans cette catégorie. Nous pouvons leur rendre le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ce n'est pas selon l'intelligence, ce n'est pas selon la connaissance que l'Esprit donne. C'est la preuve même que jusque-là, l'Esprit ne s'est pas révélé en eux. Pourtant, ils ont des expériences qu'ils attribuent au Saint-Esprit. Le parler en langue et d'autres choses qui disent, ah voilà, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu est en eux. Non, la seule preuve que l'Esprit de Dieu est dans le pécheur, c'est que l'Esprit leur donne cette véritable connaissance du Seigneur Jésus-Christ et du salut sans les œuvres de justice de la part du pécheur. Et c'est quoi il dit dans le verset 3, « Ne connaissant pas la justice de Dieu. » Il parle d'un Dieu juste, mais ils ne connaissent pas comment Dieu peut être juste et justifier le pécheur. Ils disent, « Oui, Dieu est juste, mais voilà, au moins il considère ma décision. Il considère le petit effort que je donne. » Non. Ne connaissant pas la justice de Dieu, vous ne savez pas que la justice de Dieu exige la perfection. C'est pourquoi si un pécheur imagine que par ses œuvres de justice, il plaira en quelque sorte à Dieu, non. Ne connaissant pas la justice de Dieu, c'est pourquoi c'était nécessaire que Christ viennent et qu'ils accomplissent, non seulement dans la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi, toute la justice de Dieu à l'égard du pécheur. Mais non, ne connaissant pas la justice de Dieu et cette loi que Dieu a ordonnée à travers la vie et la mort du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils font? Cherchant à établir leur propre justice. C'est là que Paul est en train de dire à Timothée, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, Nous devons insister là-dessus. Il n'y a pas plusieurs justices. Il n'y a qu'une seule justice de Dieu. Et il n'y a qu'un seul dans l'existence de l'humanité qui a pu accomplir cette justice. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu. Mais lorsque les hommes continuent à ajouter leur propre justice, même ceux qui disent non, il a tout accompli, mais maintenant, le point clé, c'est notre oui. C'est le pécheur qui doit maintenant dire oui et accepter, autrement, ce salut ne peut pas être réalisé dans le pécheur. Ça, c'est la folie. Cette manière de raisonner démontre que ce sont des gens qui sont, comme Paul le dit, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. C'est tout ce que la chair peut produire, c'est le péché. Et c'est pourquoi il dit qu'ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. On ne doit pas hésiter. Peu importe ceux qui disent que non, je crois que quand même, selon mon expérience, je suis un enfant de Dieu, non. Déjà, par votre manière de vivre, en poursuivant une propre justice, que vous imaginez que Dieu doit accepter, cela démontre déjà que vous ne vous êtes jamais soumis à la justice de Dieu. C'est seulement l'Esprit de Dieu révélant Christ dans le cœur et montrant au pécheur la méchanceté de son cœur et son état de perdition, c'est seulement là que Christ est révélé et que de tels pécheurs se soumettent donc à cette justice de Dieu. Notons bien dans les Écritures, nulle part ça ne dit justice de Jésus-Christ. C'est la justice de Dieu, parce que Christ était le serviteur, Christ était le médiateur. Mais ce qu'il a fait, c'était pour la satisfaction de son Père. Et le Père étant satisfait, c'est pourquoi maintenant c'est appelé la justice de Dieu. Bien sûr, c'est Christ qui l'a accompli, mais c'était pour son Père. Et donc nous, qui sommes les enfants de Dieu, par la révélation du Christ, à travers l'Évangile et par son Esprit, nous sommes soumis à cette justice-là, que Christ a satisfaite pour la gloire de son Père. Et voilà la conclusion dans le verset 4 de Romains 10, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si je suis véritablement un croyant en Christ, donc c'est que maintenant, l'Esprit me montre comment Christ a satisfait la loi. Il est la fin de la loi. Je ne suis pas en train de me balloter entre la grâce et les œuvres de la loi, non. Tout est par grâce pour la justification de tous ceux qui croient. Ce n'est pas le fait que je crois que je suis justifié, mais puisque ma justification, la justice de Dieu a été accomplie à la croix, alors, c'est pourquoi l'Esprit maintenant révèle Christ en moi et je crois en lui à cause de cette justification. Donc revenons ici dans Tite chapitre 3. Nous sommes en train de regarder le verset 7 où c'est écrit afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance. Comment est-ce que nous recevons cette espérance? C'est par l'œuvre de l'Esprit, révélant Christ dans le cœur, à travers la prédication de l'Évangile. C'est pourquoi c'est important pour nous de prêcher l'Évangile, prêcher Christ et Christ crucifié, quel que soit le texte. Si nous sommes dans l'Ancien Testament, il est l'accomplissement de tout ce que la loi exigeait. Autrement, on ne pouvait pas avoir une espérance d'hériter la vie éternelle. Mais puisque Christ est l'accomplissement de tout, non seulement la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi. Il a accompli non seulement en œuvre lui-même, mais en parole et en pensée parfaitement. C'est pourquoi la justice de Dieu dépend de lui. Donc, revenons encore à cette ébauche que nous sommes en train de suivre ici. Voyant les sept traits caractéristiques d'un enfant de Dieu par rapport aux sept caractères de ceux qui sont encore perdus dans le monde. Nous avons déjà vu le premier, les œuvres de justice en sont exclues. Deuxièmement, il dépend de la miséricorde du Dieu sauveur. Ça c'est clair dans le verset 5, mais selon sa miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est de ne pas recevoir ce que nous méritons. Ça c'est la miséricorde. Nous méritons la condamnation de Dieu. Mais au lieu de nous condamner, Dieu fait miséricorde. Mais ce n'est pas seulement que Dieu a regardé ailleurs ou dit « bon, je ne vais pas regarder leur péché ». Non, il fallait encore que Christ vienne. C'est dans cette miséricorde que Christ est venu. Paye la dette. Donc dans sa miséricorde, au lieu d'attribuer, d'imputer la charge de nos péchés à nous, il a attribué, il a mis cette charge sur le Seigneur Jésus. C'est pourquoi donc ce deuxième caractère du salut, ça dépend de la miséricorde du Dieu sauveur. C'est ce qu'il est, le Dieu sauveur. Troisièmement, il y a lieu au salut par le lavage de la régénération. Le mot baptême signifie le lavage, que c'est l'Esprit de Dieu qui entre dans le cœur et purifie le cœur. Comment? Parce que le cœur est toujours pécheur, mais c'est comme nous lavons tous les jours. Pourtant, à la fin de la journée, on a besoin de se laver encore. Donc, c'est l'Esprit qui œuvre de cette manière pour que, à travers la régénération, et le mot « régénérer », rendre de nouveau à la vie, ça, c'est une œuvre continuelle de l'Esprit. Ça commence avec la révélation du Seigneur Jésus-Christ, et dans cette révélation de Christ, nous sommes lavés de toute fausse pensée, de toute fausse poursuite, selon les œuvres, en imaginant que c'est par nos œuvres que nous serons sauvés. Nous sommes lavés, nos cœurs sont lavés de cette pensée-là. Donc ça, c'est le troisième caractère du salut des enfants de Dieu. Mais le quatrième aussi, en connexion avec le troisième, c'est par le renouvellement de l'Esprit Saint. L'œuvre de l'Esprit est continuelle. C'est ça qui démontre que nos cœurs sont toujours vendus au péché, comme Paul indique dans Romains chapitre 7. Donc, quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit tous les jours avec nous qui ne fait que renouveler nos esprits et nos âmes pour ne pas que nous retournions dans cette fausse espérance qu'on avait peut-être auparavant et tomber de nouveau dans cet état de désobéissance et d'être égaré et asservi à toute espèce de convoitise, non? Que c'est le renouvellement de l'esprit qui nous retient et qui nous préserve pour que nous ne nous perdions point. Ça, c'est important, l'œuvre de l'esprit. Donc ça, c'est le quatrième caractère que nous voyons ici en contraste avec ce qui identifie le monde. Mais numéro 5, c'est que cette miséricorde révélée par le Saint-Esprit a été répandue richement sur ceux pour qui Christ est mort et que le Père a choisi. Notez verset 6, il a répandu sur nous, notez, avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, combien j'aime ce terme, avec abondance. Cela veut dire que nous ne pouvons jamais épuiser la miséricorde de Dieu, mais que tous les jours, cette miséricorde est répandue sous nous, par l'Esprit, grâce à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Numéro 6, le sixième caractère, en rapport avec le premier, les œuvres de justice en sont exclues. Donc, par quelle justice alors est-ce que les pécheurs sont justifiés? Numéro 6, nous sommes justifiés par la grâce du Dieu Sauveur. Donc, dans ce texte, nous voyons la miséricorde de Dieu, et ici, dans verset 7, nous voyons la grâce de Dieu. On peut se demander, mais quelle est la différence? Il faut savoir que la miséricorde de Dieu est sur tous les êtres humains. Le fait que Dieu ne condamne pas immédiatement un pécheur, même s'il est désigné pour la condamnation, ça c'est une miséricorde de Dieu. Le fait que Dieu supporte et endure même les vases de colère, ceux qu'il a créés pour la condamnation, mais ils vivent de longues vies et ils respirent l'air que Dieu a créé. C'est comme c'est écrit en Matthieu, le soleil se lève sur les justes et les injustes. La pluie tombe sur les justes et les injustes. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais il y a une miséricorde ensemble avec la grâce de Dieu. Quand vous voyez ce mot grâce, ça c'est un terme unique pour des pécheurs que Dieu sauve. C'est par grâce. Et ça, ce n'est pas répandu abondamment sur tous les êtres humains. Non, cette grâce est réservée uniquement pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Par cette grâce. Et c'est par cette grâce que nous sommes justifiés. C'est-à-dire, si Dieu a fait grâce à un pécheur, c'est parce que ce pécheur a déjà été justifié en Jésus-Christ par son œuvre. Ça, c'est le sixième trait caractéristique que nous voyons là. Et puis, le dernier, c'est que nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. Oh, quelle bénédiction d'être trouvé comme héritier de la vie éternelle. Comment? En Jésus-Christ. C'est ça que notre Seigneur a prié dans sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, verset 1, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Il est en train de viser maintenant sa mort imminente. L'heure est venue. Depuis l'éternité, maintenant est venue cette heure-là. Tout est selon ce que Dieu a prédestiné. Mais il dit, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Comment est-ce qu'il devait glorifier son fils? En approuvant, en acceptant cette heure de justice que Christ est venu accomplir. Et maintenant, c'était le moment de donner sa vie. Et que le Père trouve cette œuvre à sa satisfaction, à l'égard de ce peuple qu'il est venu sauver. Et il dit, dans le verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Donc, comment est-ce que quelqu'un entre dans cette espérance de la vie éternelle pour être héritier de cette vie éternelle? C'est bien écrit afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc, bien vrai, Christ a le pouvoir de toucher, mais il ne donne cette vie éternelle qu'à ceux que le Père lui a donné. Et voilà la définition de la vie éternelle. Verset 3. Ah, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle, c'est lorsque l'Esprit révèle Christ au cœur du pécheur, afin qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà ce que c'est d'entrer dans cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est par l'Esprit qui donne. Alors, quel contraste entre les sept caractères que nous trouvons dans la vie de ceux qui sont encore dans le monde, et nous étions autrefois de leur nom, mais maintenant, quel contraste de voir en Christ et le salut et l'œuvre entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, tout vient de Dieu. Mais quel contraste de trouver ces bénédictions sans les œuvres de notre part, mais tout dépendant de l'œuvre de Christ. C'est pourquoi, dans le verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Nous n'avons pas autre message à annoncer que ce qui est décrit ici dans les versets 5 à 7. Et nous devons insister là-dessus, revenir là-dessus. Chaque fois que nous prêchons, il ne faut pas imaginer, puisque nous l'avons entendu déjà une fois, que ça y est, on n'a plus besoin. Non. À cause de cette nature pécheresse, nous en avons besoin d'entendre ce message tous les deux. Et de l'œuvre de l'Esprit, de renouveler nos cœurs chaque fois, de voir que notre salut a été accompli par Christ et non pas de nous. Et c'est écrit afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Encore, nous voyons la différence entre pratiquer des œuvres de justice. On ne peut jamais satisfaire la justice de Dieu par des œuvres quelconques que nous aurions faites, mais de pratiquer de bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? Encore, c'est le fruit, c'est le produit, comme dans le verset 4, être zélé pour les bonnes œuvres. Ce sont des œuvres qui retentissent de nos cœurs et de nos bouches et de nos mains à la gloire de Dieu seul, et non pas à nous-mêmes. Voilà la seule bonne œuvre, c'est l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Christ à notre égard. Donc Paul dit à Timothée, je veux que tu insistes sur ces choses, à la gloire du Seigneur, alors que le Seigneur nous bénisse dans l'écoute de sa parole. Amen.